Donc, je suis Noa Gamal Saïd, je suis chercheur associé postdoctorante au laboratoire Cresson, qui est un Cresson, c'est centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Et en fait, c'est le concept en fait de ce laboratoire, c'est de faire une réégalité des sens. Donc, comment notre connaissance du monde, c'est à travers une expérience sensible, ce n'est pas uniquement l'aveu qui prend une place très importante dans la pensée et les pratiques architecturales et urbaines. Il y a quand même un espace très important dans la pensée au sonore, la ville, comment la ville sonne. Et en fait, dans ce cadre-là, je me suis inscrite en thèse en 2008 sur une notion qui s'appelle le palimpseste des ambiances. Est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire un palimpseste? Donc en fait, ça c'est le Caire, ça c'est le quartier qu'on va étudier. Donc voici un palimpseste. Un palimpseste, c'est un type d'écriture sur un parchemin où les textes superposent. Donc en fait, il y a une première couche d'écriture qui était effacée sur le parchemin parce qu'elle était chère, donc elle était effacée pour écrire, réécrire là-dessus. Et en fait, cette notion indique en quelque sorte le temps, puisqu'elle montre qu'il y avait deux temps, deux temporalités dans cette. Il y a deux temporalités d'écriture. Ce mot, cette notion, a été empruntée, introduite dans l'urbanisme par André Corbeau pour définir, nommer le paysage contemporain. Puisque, comme on voit ici, il y a des bâtiments qui viennent de plusieurs époques. On le voit tout de suite, d'ici, là, là. Donc chaque bâtiment a été inséré au paysage de la ville à un moment donné de son histoire. Donc en fait, il a dit comment nommer cette différence temporelle par un mot. Donc il a emprunté cette notion-là, palimpseste, pour décrire, dans un article qui s'appelle « Le territoire comme palimpseste », qui a écrit en 1983. Et ça devient d'ici là « ville palimpseste », ça devient un terme utilisé. Et en fait, dans mon cadre de thèse, je voulais travailler sur... ambiance palimpseste. En fait, la notion d'ambiance, c'est la notion dans lequel on travaille au Cresson. Donc l'ambiance est un terme quand même fédérateur de notre travail. Donc ambiance palimpseste. Donc comment l'expérience sensible peut avoir cette sorte d'accumulation dans le temps. En fait, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, la notion de palimpseste change notre façon de voir la ville. Parce que c'est un processus continu, un être toujours en devenir permanent. Donc, ce n'est pas quelque chose figé, mais c'est quelque chose très mobile. Or, dans l'expérience sensible, c'est quand même un peu difficile parce que quand on part du son, le son... elle a une durée réduite, elle est fragile. Donc comment, dans cette fragilité éphémère des phénomènes d'ambiance, il y a quand même une durée. Donc j'avais du mal à interpréter cette notion ambiance palimpseste en tant qu'architecte urbaniste. Comment peut-on la présenter? Donc en fait... j'avais vraiment du mal à remonter dans le temps, remonter, donc commencer vraiment de s'y quitter avant et puis remonter l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Parce que je savais pas qu'elle existait avant, comment ça transformait dans le temps. Donc en fait, j'ai décidé de commencer à l'envers. D'ici, donc l'ambiance, d'ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionner? Et puis redescendre dans les couches temporelles pour trouver les racines de chaque phénomène. Donc en fait, l'hypothèse principale de mon travail était l'ambiance en termes du palimpseste est définie comme une incarnation du passé dans le présent à travers un processus continu de sédimentation des traces. Et en fait, ça veut dire que l'expérience actuelle des espaces, ça devient une couche interactive, donc interface temporelle dans laquelle on peut monter ou redescendre dans le temps. Donc ça se passe quand même une sorte de conjugaison temporelle lors de l'expérience. On peut entendre, par exemple, si on est dans le centre ancien et on entend les cloches, et puis on entend les voitures, et puis on entend les piétons sur un type de revêtement du sol. Donc il y a quand même une composition sonore au sein de l'expérience. Donc il y a des phénomènes qui se conjuguent ensemble pour produire l'expérience vécue des espaces. Et en fait, le mot le plus important dans la notion du palimpseste, c'est la stratification temporelle. Donc c'est ce processus d'ajout continu. Et en fait, pour moi, pour entrer dans l'épaisseur temporelle, la notion des traces était une notion clé. Donc comment on peut chercher des traces qui viennent vraiment d'un ailleurs temporel pour redescendre dans le passé du quartier ou bien le passé de l'espace. L'objectif de mon approche, c'est comment c'est l'épaississement de territoire. Donc en fait, ce n'est pas l'identité, mais la particularité de chaque paysage. Comment donner un épaisseur, une particularité qui traverse quand même un temps important dans son histoire. Donc comment épaissir ces phénomènes d'ambiance dans le temps. Et ça, c'est une politique, en fait, on voulait introduire aussi l'expérience sensible dans le domaine de l'héritage, mais l'héritage immatériel, le patrimoine immatériel, comment le son, le corps dans l'espace, les pratiques sociales, ça peut aussi rentrer dans un héritage qu'on le hérite, quelque sorte, dans chaque partie, dans chaque morceau de la ville. Donc c'était à peu près ça, c'était la problématique. Et puis enfin, je suis arrivée à l'hypothèse. En fait, l'ambiance, dans cette perspective, devient un enregistreur, elle aussi, comme la ville, comme un temps long. En fait, quand on parle du temps et l'ambiance, le temps, par exemple, dans une journée, une rue, hein, on peut prendre un exemple, enfin, vous par exemple, vous habitez dans un quartier, qu'est-ce qui se passe à 9h du mat, midi, le moment de sortie de l'école, et puis la soirée. Enfin, qu'est-ce qui se passe autour de le long de la journée? Est-ce qu'il y a des activités dans la rue, dans l'espace? Comment ça change en termes du temps? Voilà. Enfin, est-ce qu'il, par exemple, le matin, il y a des gens qui vont au travail, par exemple, donc ils changent un peu le rythme, le moment de retour, Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, dans certaines, le marché, quand il s'installe dans certaines parties, il change complètement l'ambiance de ces quartiers. Après, quand il, le moment qu'on fait le nettoyage et tout, il y a autre ambiance. Et quand il est vide complètement entre la matinée, le moment de retour, donc l'espace, en fait, le temps et l'ambiance, c'est un temps quand même assez. Dans notre labo, le temps est assez réduit. Ça peut être le long d'une journée, une semaine, un mois, entre saisons, comment ça change entre l'hiver et l'été, le printemps, comment les pratiques de l'espace changent. Mais le temps long qui couvre une durée des années, des décennies, des siècles, c'est quand même peu traité. Donc l'héritage de l'ambiance. Donc en fait, l'hypothèse, c'est l'ambiance, elle aussi peut être enregistrée, enregistreur du temps long, dans lequel le sensible, l'ambiance devient une couche interactive. Il y a une interface temporelle. Donc on peut par exemple, un type de commerce, un restaurant qui donne, qui offre un type de nourriture particulier dans un endroit, l'odeur du pain, par exemple, qui a quand même une histoire importante dans notre vécu, dans, enfin, pendant plusieurs années, ou bien des choses qui viennent vraiment de l'essence, par exemple. Et puis, la deuxième hypothèse, en fait, il y a chaque quartier a une manière particulière pour traiter son passé. Donc il y a des quartiers qui sont très préservatifs en termes de changement, ils sont persistants. Il y a d'autres qui s'effacent facilement, qui changent complètement leurs ambiances, leur présence des gens au sein de leurs espaces. Donc en fait, il y a des modalités des palimpsestes. C'est-à-dire, quand on fait une transformation, l'ambiance, comment l'ambiance change ? Est-ce qu'elle change vraiment d'une façon radicale ? Il y a certaines interventions urbaines qu'on rase et puis qu'on reconstruit. Ou bien on dit que non, on va préserver certaines parties. Donc il y a quand même un changement. Ça suffit de changer, par exemple, l'exemple qu'on a parlé aujourd'hui, Frédéric, le fait d'ajouter deux étages, de permettre de changer deux étages, ça change complètement l'ambiance. Enfin, la vue était bloquée. On a parlé d'une ville à Marrakech. Ils ont autorisé de ajouter deux étages, la vue était bloquée. Donc, on s'en étouffait. Donc, il y a toute une expérience, une sensation de la ville qui a complètement changé. Donc, en fait, il y a le type de changement de l'ambiance face au temps long. Ça donne une modalité particulière de l'ambiance, du palimpseste. Donc, en fait, alors, la deuxième question, la méthodologie. Alors, comment peut-on construire un corpus de base sur la mémoire ou bien l'histoire sensible des lieux ? En fait, il y avait deux grands corpus, la mémoire habitante et puis la mémoire archivée. La mémoire habitante, il y avait le chercheur, son propre expérience avec ses impressions sur le terrain. Donc on fait un journal de bord, on décrit nos sensations, nos impressions de ce qui se passe. Et est-ce que c'est accueillant, c'est pas accueillant, comment on change en termes du temps, quelles sont les pratiques sociales, quels sont les sons, les odeurs. Donc on note tout ça. Et puis, la deuxième façon de faire le travail, c'était de faire des entretiens avec les savants de la ville, c'est-à-dire les écrivains. Donc l'écrivain était vraiment une source très importante. Et puis les architectes, les sociologues, anthropologues, les cinéastes, les acteurs. Donc tout ça, en fait, on a fait. Enfin, il y avait plusieurs entretiens. Les profs, soit dans l'histoire, soit dans les chercheurs dans l'histoire, dans les l'architecture, l'urbanisme. Et puis, en fait, un troisième temps, c'était les parcours commentés. Les parcours commentés, c'est une méthode qui était, faite par mon professeur de thèse, Jean-Paul Thibault. Et en fait, c'est une manière pour recueillir l'expérience sensible des habitants. C'est facile. On est, en tant que chercheur, accompagné par des habitants. On se déplace au sein du quartier. On le fait parler de leur propre expérience actuelle et passée. Et lors de le parcours, on l'enregistre. Et après l'enregistrement, on fait une transcription et puis on fait sortir les informations générales et les phénomènes d'ambiance constituant l'expérience sensible de ces lieux. Après avoir fini l'analyse de ces mémoires habitants, enfin, je commençais quand même à sortir des phénomènes, il y avait une deuxième phase, c'est la mémoire archivée. Donc comment peut-on accéder à l'ambiance du quartier dans le passé? En fait, c'est vrai qu'il y a une partie architecturale, les bâtiments et eux-mêmes, comment ils sont, mais ce n'est pas ça qu'on peut chercher le vécu des ambiances, enfin le vécu de la ville. Donc il fallait trouver autrement. Donc on était allé vers la représentation de la ville dans les films, les romans, peintures, photographies, tous les documents qui représentent la ville et qui décrivent en quelque sorte leurs ambiances à un moment donné de leurs histoires. Enfin, est-ce que vous avez lu l'immobilier Yacoubien de Alain Oswani? C'est exactement ça. L'immobilier Yacoubien, il a pris le bâtiment au centre du Caire où il y a la place de Tahrir et puis il a montré comment cet bâtiment-là, cet espace miniature, et la décrire le changement de l'ambiance du quartier à travers une transformation sociale très importante. Après la révolution de 52 et la partie des élites, et puis remplacée par les officiers et leurs pratiques dans l'immeuble qui a complètement changé. Donc elle représente à partir de cet immeuble-là comment l'ambiance du centre-ville a changé depuis 52 et jusqu'aux nos jours. Donc, après, j'ai commencé quand même à présenter le Caire dans un cadre spatio-temporel. Donc, le Caire est une ville très très ancienne qui remonte dans le temps jusqu'à. C'est à peu près 6000 ans. Et en fait, pour travailler le palimpseste des ambiances, j'ai choisi quatre quartiers différents qui sont insérés au tissu urbain de la ville à des moments différents. Donc, le Caire fatimite, avec des configurations spatiales rouelles et impasse, ça c'est le Caire fatimite, le vraiment centre médiéval. Et puis, Choubra, ça c'est la première étape de la modernisation de la ville. Et c'est ça le quartier où j'ai fait les coupes temporelles. Et c'est composé aujourd'hui des rues canyon. Et puis, dans un troisième temps, au début du 19e siècle, et puis au début du 20e siècle, c'était Héliopolis, quartier moderne, avec des boulevards, c'était jardin, le concept de cité jardin, avec des boulevards. Et puis, on peut dire 2000, donc chaque 100 ans, chaque siècle, Rehab City, c'est une gated community. Gated community, c'est-à-dire c'est une configuration, enfin, gated community, est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que ça? C'est une communauté mais fermée, entourée par des murs. Et l'entrée est fermée pour les habitants, pour les habitants de la ville du Caire, sauf les habitants du quartier. Donc il y a un morceau de ville qui est une partie, on dit des poches dans des poches. Donc la ville, et puis il y a des morceaux de la ville qui sont complètement découpés. Donc ça, c'est les gated communities. Et en fait, après le travail qu'on a, le regard croisé de toute la ville, on a quand même montré des catégories importantes qui définissent le care par la mémoire et le sensible. Il y a une bruit, enfin, en termes arabes, il s'appelle dans les pratiques de la rue, au Caire, il y a beaucoup des sons. Donc on dit, il y a un mot précis qui s'appelle l'ouanas. Et l'ouanas, c'est un accompagnement sonore. On a toujours entouré par le son. Et mais c'est un son où l'autrui est présent d'une façon familiale. C'est pas agressif. C'est proche. Donc il y a un partage sonore, même si on ne le voit pas. Donc en fait, l'un des phénomènes quand même importants qui fait la vie sonore de la rue, c'est les crieurs de rue. Donc les crieurs de rue, c'est un type de marchandise où quelqu'un qui se déplace au sein de l'espace, il fait appel à ses produits en chantant. Soit il chante, soit il utilise des instruments musicaux. Enfin, il y a les... Par exemple, donc en fait, donc ça c'est un son, et enfin il utilise vous voyez ces deux plats en métal, il les tape avec. Et en fait, ça c'est un son, ça c'est une culture sonore, enfin, on le connaît. C'est une mémoire sonore, une culture sonore partagée. Dès qu'on l'entend, on sait c'est qui, qu'est-ce qu'ils vendent. Et il y a quand même cette interaction entre les ventes, sans la vue, soit présent. Donc en fait, ça c'est très... Et puis il y a une chanson qui va avec, donc il chante en même temps qu'il... et ça c'est très ancien en fait, ça traverse, parce que donner à boire dans la rue, enfin il fait chaud, donner à boire au sein de la rue, c'est une pratique sociale qui remonte le temps à des époques très très loin, jusqu'à on peut dire, donc ces photos là, c'est prise de 1852, 1850, deuxième moitié du 19e siècle. Après, il y a aussi quelque chose quand même important, c'est la gestion de regard. Il y a un contrôle exercé sur le regard par des dispositifs architecturaux. Mais en fait, si vous avez voyagé dans le sud, enfin, vous allez dans les anciennes médinas, vous allez sentir que tout est fermé. Tout est... visuellement, c'est fermé. Mais corporellement, c'est très perméable. Donc, il y a quand même une contradiction entre ce qu'on voit et ce qu'on traverse. Par exemple, ici, ça, il s'appelle la porte miniature. Donc, c'est la porte dans la porte. Et en fait, cette porte, la hauteur de la porte, c'est jusqu'aux épaules. Donc comme ça, les personnes qui passent, ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en même temps, on peut rentrer. Ce n'est pas fermé. C'est exactement le contraire des gated communities. Les gated communities, avec les limites bien précises de l'espace, il y a un filtrage corporel. Mais on peut voir ce qui est derrière. Donc il y a tout un renversement du sensible entre ce qui se passait avant et ce qui est maintenant. Et par contre, il y a quand même une culture sonore très importante, parce qu'à un moment donné, les femmes ne pouvaient pas sortir, donc comment fonctionnait la ville, enfin les marchandises viennent chez eux. Et même les enfants, en fait, le barbe à papa, par exemple, il y a un sifflet particulier. Tous les enfants le savent. Enfin, dès qu'on l'entend, on sait qu'est-ce que ça... Donc, c'est vraiment un héritage dans le sens particularité sonore. Donc, voilà, c'est la porte. dans la porte. Et pour entrer, il faut vraiment une posture corporelle particulière pour entrer. Et puis aussi, il y a des poignées, deux poignées, ça aussi c'est un code sonore, deux poignées, un grand et un petit. Quand on tape sur le grand, ça veut dire un homme qui est dans la porte, et puis la petite, c'est une femme, donc qui va ouvrir la porte. Une femme, donc il y a une culture sonore qui fait l'interaction en fait. Ça, c'est des postures corporelles, donc c'est la tête porteuse. Et en fait, la tête porteuse, c'est pour remplir l'eau, pour amener à la maison. Et ça devient une posture corporelle qu'on le voit maintenant dans les pratiques, la présence corporelle de la ville, dans ou celle de l'espace public. Donc, après, en fait, j'ai commencé à après. Donc ça, c'est le regard général. J'ai donné quand même deux exemples, de petits exemples. Mais après, j'ai travaillé plus en détail un quartier Choubra. C'est un quartier quand même très important parce que il est le premier. C'est la seuil de la modernisation de la ville avec Mohamed Ali. Donc Mohamed Ali, on dit c'est le fondateur du Caire moderne. Et puis, il a fait, en fait, c'est à côté du Nil, et en même temps, c'est plus au nord. Ça, c'est le Caire ancien, plus en bas. Et puis, c'est le quartier plus au nord. Donc, voici la partie qu'on a étudiée. Et en fait, je vais raconter quand même son histoire dans les coupes temporelles. Donc, en fait, il y a le boulevard de Choubra. Donc, Mohamed Ali, quand il est arrivé, il s'est installé. Normalement, le président, ou bien le Khedif, il a toujours habité dans le Caire Fatimide avec les gens. C'était la première fois dans l'histoire urbaine que le président ou le responsable part de la ville ailleurs. Il a construit son palais vraiment au nord, dans des terrains. Le nord, c'est où la ville du Caire se rencontre l'espace rural. Donc il y avait beaucoup de terrain agricole. Il a implanté son palais et puis il a fait le boulevard d'Ouchoubra qui traverse d'une façon droite tout le quartier jusqu'à son palais qui est juste là. Donc le palais Mohamed Ali et puis ça c'est l'avenue d'Ouchoubra. Et puis en fait, moi j'ai étudié un espace qui s'appelle Dawaran Choubra. Dawaran Choubra, c'est le rond-point de Choubra. C'est quand même parti très important où il traverse. Enfin, en fait, on comprend comment c'est organisé le tissu urbain. Il y a le boulevard et puis les rues canyonnes. Les rues canyonnes, et dans les rues canyonnes, il y a des marchés qui sont à l'intérieur. Donc, il y a une composition. Donc, en fait, on a fait trois coupes différentes avec qui traverse le quartier qui couvre plus ou moins tout l'ambiance du quartier, enfin représentative de l'ambiance du quartier. Donc c'était les coupes. On a commencé à dessiner les coupes et en fait je m'arrête ici pour faire une petite parenthèse. En fait les coupes urbaines, il y a un groupe des architectes paysagiste qui essaye de travailler les coupes en le nommant transect urbain pour améliorer. Il y a les coupes architecturales et puis les coupes urbaines. Les coupes urbaines, c'est une échelle quand même beaucoup plus grande. Pour améliorer la capacité des coupes urbaines à représenter l'ambiance du quartier. Parce que, en fait, le plan n'est pas capable de décrire, de montrer une ambiance d'une façon dessinée. Par contre, les coupes sont quand même beaucoup plus puissantes parce qu'on sent les dimensions de l'espace. L'auteur, le corps dans l'espace, les pratiques, les dimensions. Donc tout ça, on peut sentir dans les coupes. Donc en fait, j'ai commencé à dessiner les différentes coupes. Donc ça, c'est le boulevard. Et puis ça, c'est les rues résidentielles. C'est des rues canyonnes. Ou plantés par des arbres et des bâtiments qui ne sont pas très très hauts, c'est 5 ou 6 étages maximum. Et puis ça, le métro souterrain, Et puis en fait, la coupe temporelle, la coupe, elle est placée sur la couche actuelle, le manon. Et puis il y a les couches, enfin, ça c'est la ligne du temps. Et puis ça c'est toutes les moments de bouleversement. Donc comment le quartier change dans le temps, comment il y avait un changement radical. Moment de bouleversement, c'est-à-dire il y a un changement radical dans l'ambiance du quartier. Donc il y avait, donc, enfin c'est ça qu'on va détailler. Donc ça c'est la première, le commençons en 1809. Il n'y avait que des terrains agricoles, des petits villages, et puis le Mohammed Ali a construit son palais et puis a construit son avenue qui s'appelle avenue de Choubra. Choubra parce qu'il y avait un village qui était nommé Choubra. Dans la première moitié du 19e siècle, il y avait quand même pas les fils de Mohammed Ali et la classe élite, ils ont commencé à construire des palais dans le quartier, donc ça devient une banlieue luxueuse. Donc ça c'est la première partie du 19e siècle. Et puis l'entrée du tramway en 1903, ça a rendu le quartier beaucoup plus accessible et ça commence une troisième phase d'urbanisation des bâtiments résidentiels, mais aussi pour la classe moyenne élevée. Et puis après 52, il y a quand même un vaillissement il y avait des changements sociaux très importants. Les élites qui ont toujours habité le quartier, elles sont parties vers le centre-ville du Caire, le Mostelbalat. Et puis, ce qui remplaçait, c'est des gens des classes inférieures. Et petit à petit, ça commence à se remplir. Maintenant, le quartier est là, une image populaire. Jusqu'à le 76, c'est l'entrée du métro souterrain. Et ça fait quand même une transformation urbaine, la densification des bâtiments. Les terrains, ça devient très très cher, on détruit, donc les propriétaires détruisent les bâtiments pour reconstruire d'autres bâtiments très élevés. Donc ça devient de plus en plus étouffé. Donc en fait, à partir de ce cadre-là, spatio-temporel, on a commencé à dessiner ou spatialiser les phénomènes d'ambiance sur les coups. Donc en fait, ça c'est des couches, l'ombre, la lumière, le son, comment l'ambiance change. Par exemple, entre le métro souterrain et quand on sort, il y a une coupure, donc il y a un changement radical, c'est climatisé, et puis on monte, il y a beaucoup de voitures, c'est très bruyant, c'est exposé, donc il y a un changement très radical. Et puis, quand on est dans la rue et puis on rentre dans les rues résidentielles, il y a aussi un deuxième effet de coupure dans lequel l'ambiance change radicalement vers l'aspect résidentiel. C'est calme, les oiseaux, les gens parlent, les pas, donc la présence, la vie de la rue résidentielle. Et dans la rue, en fait, parfois, je vais vous montrer, et en fait, on a placer une vingtaine des phénomènes sur la coupe. Donc ici, par exemple, vous voyez, en fait, il y a des pratiques qui restent jusqu'à maintenant. Ils font des tentes dans la rue pour les mariages, pour la mort. Donc les moments clés dans la vie de la famille, c'est partagé. C'est partagé dans le contexte de voisinage. Et c'est un dispositif mobile, mais en fait, il y a quand même une pratique sonore et lumineuse identique pour définir ces événements. Et puis, ça, c'est le marché dans la rue. Donc il y a, enfin c'est comme ici quand on fait le marché temporaire, enfin ça change complètement l'ambiance. Et puis il y a les crières de la rue et qui se déplacent soit au pied, soit avec un an qui avec lequel ils circulent. Donc il y a vraiment une vie sociale au sein de l'espace. Après, par exemple, le café, et en fait, le café, il se place vraiment au coin à la rentrée. C'est comme des gardiens de l'espace. Donc, on rentre, mais on rentre sur une réserve de regard. Donc, on est bien protégé. Donc, il y avait enfin, ça, c'est pour... ah ouais. Donc l'un des phénomènes qu'on a remarqué, mais c'est quand même, ça reste minime, c'est le vert ombrage. Le vert ombrage, c'est un phénomène de ombre qui est faite par les arbres, les feuilles des arbres, qui fait un filtrage lumineux quand même assez particulier. Ils font presque un toit végétal dans les rues. Et dans cette vert ombrage, c'est un phénomène qui rentre très très loin dans le temps, jusqu'on peut dire, c'est 1000... Pardon ? 80... 52. Donc en fait, dans les récits des voyages, des gens qui ont visité le quartier, ils commençaient à décrire le boulevard d'Ushubra avec, il était bien bien planté avec beaucoup d'arbres, et en fait cette forme urbaine novatrice à l'époque, ça changeait quand même les pratiques. Ça, c'est la première fois dans cette époque là que les femmes sortent dans la rue dans leur et puis ils se baladent, ils se rencontrent, ils se croisent, il y a quand même, et là aussi c'est temporalité, donc les gens, il y a les l'afari, c'est l'après-midi, et là j'avais vraiment besoin, et l'après-midi en fait, parce qu'il fait chaud toute la, enfin le matin, les gens, les villageois qui pratiquent de leur village jusqu'à la ville pour transporter les produits. Et puis l'après-midi, c'est le moment où les élites sont là dans l'espace pour balader à côté du Nil, mais en même temps en se profitant de l'ambiance très agréable, de protéger du soleil. Donc en fait, il y avait pas mal des gens qui ont décrit l'ambiance à cette époque dans des moments différents de l'histoire. Donc ça, enfin, avant, il était intensivement planté, puis ça commence petit à petit, ils ont enlevé quelques arbres pour le mettre dans un autre avenue, et puis elle a commencé petit à petit, l'avenue d'Ushubra, elle était urbanisée, donc elle a, enfin, c'était quand même un parc, comme un parc linéaire. Après elle était urbanisée, et ensuite c'est l'état actuel. Vous voyez, c'est le boulevard, il est complètement envahi par les voitures, mais il reste quand même des présences minimes des arbres avec les chants des oiseaux. Mais c'est une trace qui reste, mais qui révèle une épaisseur temporelle d'un phénomène très important du terrain, et qui remonte presque le temps jusqu'à presque deux siècles. C'est vrai que c'est vraiment très peu, mais ça révèle quand même une expérience intérieure du quartier. Du même, on a travaillé tous les phénomènes qu'on a trouvés sur les 20 phénomènes d'ambiance qu'on a trouvé, on a essayé de rentrer dans l'épaisseur temporelle de ces phénomènes et ce qui compose enfin la totalité des coupes temporelles. Et en fait, quand on voit donc ça c'est la temporalisation des phénomènes, Et on peut voir par des tranches du ton, par exemple ici, dans cette partie-là, il y a beaucoup de mémoire. Cette partie-là, le quartier, il est chargé de mémoire, chargé d'expérience, de représentation. Il y a différents modes, qui, l'écriture et puis la photographie. Puis petit à petit, dans une autre tranche, c'est plus les films. Donc on change le mode de représentation. L'écriture, c'est presque, ça n'existe presque plus. Et puis il y a d'autres modes de représentation. Et puis, enfin, les films continuent et les photographies. Mais la mémoire, elle est de plus en plus effacée. Donc en fait, on peut lire le quartier dans des tranches, donc d'une façon horizontale, et d'une façon verticale, on peut voir l'évolution de chaque phénomène, leur origine et la façon dont elle évolue dans le temps, son comportement face au temps. Et quand on voit la totalité de ces phénomènes, on peut comprendre la configuration temporelle du quartier. Quelles sont les racines les plus profondes et quelles sont les plus récents, c'est quel phénomène où il y a beaucoup de concentration de, par exemple ici il y a beaucoup de concentration de, autour de ces phénomènes là. Ça, enfin, je vais le montrer à la fin beaucoup plus grand, mais je le laisse comme ça maintenant pour voir la totalité. Donc ça, c'est les reliefs temporels de l'expérience. Donc à travers ces traces-là, on peut redescendre dans le temps ou bien on peut penser à l'avenir. Donc il y a quand même une décontextualisation temporelle du contexte. Après, j'ai étudié en fait un autre quartier. Ça, c'est les gated communities. Donc, configuration spatiale complètement différente, c'est le zonage. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le zonage? Le zonage, en fait, c'est on divise la ville, on découpe la ville, zone travail, zone résidentielle, zone marché, zone parking, etc. Donc, une activité par zone. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle zonage. Donc, je vous montre. Donc en fait, par exemple, ça c'est le food court. Food court, c'est une concentration des restaurants. C'est que des restaurants. Et puis, il y a la rue. Donc la rue, dans cette configuration, ça fonctionne comme rupture de l'expérience. Donc c'est comme on fait des poches, comme ça. Une rupture de l'expérience, une mur sonore qui marque un changement radical d'une ambiance à une autre. Et il n'y a pas une interaction. On ne peut pas entendre une autre ambiance ou bien sentir une ambiance dans un autre espace. C'est plus possible. C'est complètement déconnecté. Ça, c'est la zone résidentielle, les jeux d'enfants, ces jardins. C'est comme les éco-quartiers ici, en fait. On a une cour avec les jardins qui jouent, avec des jardins où les enfants jouent. Et puis, petites interactions sociales, des gens qui rentrent, des gens qui partent, mais c'est quand même plus calme. Toute la vie complexe, toute l'ambiance complexe de la vie de la rue, c'est complètement effacé et remplacé par un autre. Ça, c'est le marché. Une autre zone résidentielle, mais maison individuelle, donc c'est encore plus calme. Et puis les mosquées aussi, ils sont isolés, l'espace commercial, les malls, centres commerciaux. Et puis en fait, donc ça c'est le zone, et on voit, donc en fait avant elle était une partie désertique, et puis maintenant elle est devenue complètement un espace vert. Donc il y a... Quand on voit le Palimpsest, il y a quand même un changement radical. Et c'est aussi l'artificialisation. L'artificialisation, dans plusieurs sens, elle était désertique et puis ça devient maintenant un espace vert. avec des comportements et changements de l'ambiance qui n'ont rien à voir avec les comportements et les pratiques sociales dans dans la vie de la rue, dans les quartiers populaires. Donc, c'est complètement changé. Donc, en fait, l'outil des coupes temporelles nous a permis de valider la première hypothèse. Donc, en fait, l'ambiance actuelle, c'est une interface temporelle dans laquelle, à travers les traces, on peut rentrer ou bien descendre dans le passé. Et en fait, j'aimerais bien dire, quand on parle de l'héritage ou la mémoire en termes d'ambiance, en fait, la question de la mémoire, c'est très important parce qu'en fait, en parlant avec les habitants, ils disent des mots, ça m'a fait penser à. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait. Donc, il y a quand même une sorte d'attachement, place attachment, de certains phénomènes qui existaient avant et, ou bien des dispositifs qui peuvent activer la mémoire. Donc, la question de la mémoire, ça devient quand même une question clé qui fait qu'au sein du quartier, au sein de l'expérience, on pense à une autre temporalité, à un ailleurs temporel. Donc, il y a vraiment cette complexité qu'on ne trouve pas trop quand on est dans les gated communities. Dans les gated communities, il y a une autre forme d'expérience, on compare. On compare c'est hyper textuel, enfin je vais parler. Donc on compare les expériences à l'international ou bien en Égypte. On dit non, ici c'est plus calme, c'est pas comme quand j'étais dans un autre quartier où il y avait, je sais pas. Donc c'est une comparaison, mais c'est pas un sens d'attachement. C'est autre façon de vivre la ville. Et puis, pour une deuxième hypothèse, c'est les modalités d'ambiance, de comment l'ambiance change, comment chaque quartier fonctionne face au temps long. En fait, les modalités, c'est des configurations temporelles. Elles définissent des figures de composition qui composent l'évolution des phénomènes d'ambiance dans le temps. Donc en fait, on a dit comment chaque phénomène évolue dans le temps. Donc qu'est-ce que l'ensemble donne? Est-ce qu'on est vraiment dans l'effacement? Est-ce que tout est presque effacé? Ou bien est-ce qu'il y a une partie qui a persisté et l'autre est effacée? Pourquoi? De quelle manière? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc en fait, pour définir ces modalités du palimpseste, il fallait lire en frontalier. Donc il fallait voir toute la coupe temporelle et puis commencer à tracer pour voir qu'est-ce qui se passe, où il y a les moments de rupture, où il y a les moments de continuité, qu'est-ce qui se passe dans les moments de bouleversement. S'il y a un changement radical qui a pris place, qu'est-ce qui s'est passé avant et après pour chaque phénomène. Donc en fait, on a construit des groupes des phénomènes, la permanence, c'est quand les phénomènes continuent. Donc ça, c'est la continuité temporelle. Et il y a trois modes, persistance quand elle persiste, dans le sens mémorial et physiquement sur terrain, le fondu enchaîné, en fait, c'est un changement très doux. Très très doux, mais dans le même catégorie. Donc par exemple les crières de la rue, qui sont changées de forme, mais ils sont toujours là, avec d'autres costumes, avec d'autres, enfin peut-être d'autres outils, mais ils existent, ils sont toujours là. Ou bien la rémanence, elle est effacée de contexte, comme par exemple dans l'avenue de Joubra, les personnes âgées m'ont beaucoup parlé de tramway. Le tramway était effacé du contexte, mais les persistant dans la mémoire des gens, parce que c'est une relation à la ville visuelle, une manière de regarder la ville d'une façon très particulière. On est là, on se déplace, et puis c'est un espace aussi social. Et les gens rentrent, ils ont un moment ensemble, ils sont face à face, donc ils discutent, et puis ils se connaissent, ils s'amusent. Donc c'était un moment où les gens s'amusaient pour déplacer dans la ville. C'était enlevé. Donc, et puis en fait, il y avait le conducteur, il faisait très attention aux personnes âgées quand il monte, quand il descend, aux enfants. Donc il y avait quand même un rapport humain avec cet outil-là, avec cet outil de mobilité. Mais elle n'est plus là. Pourtant, elle sort beaucoup dans la parole. Elle est là dans la parole, elle est là dans la mémoire. Et puis, une deuxième catégorie, c'est le gommage. Le gommage, ça veut dire qu'on a un moment de bouleversement, une ligne du temps, et puis, c'est rupturé. On n'a plus. Donc, par exemple, on a deux... C'est l'effacement, l'effacement, c'est un gommage, mais plus doux que la rupture. La rupture, c'est vraiment radical. C'est fini. Par exemple, quand ils ont fait l'effacement, les vertombrages, ils ont déplacé les arbres pour l'implanter dans l'avenue El-Ahram pour fêter l'arrivée de c'est à l'époque de Farouk, mais pas lui. En fait, il y avait des visiteurs de l'Angleterre avec l'ouverture du canal de Suez. Oui, donc ils ont enlevé les arbres pour l'implanter dans une autre avenue qui donne à El-Ahram, les pyramides, pour fêter leurs arrivées. Donc ça c'est un effacement. Ça c'est une sorte d'effacement. Des pratiques et effacement aussi spatial. Après, métabolisme. Métabolisme c'est quand il y a un changement. Un changement de phénomènes. Donc, enfin, par exemple, le métissage. Le métissage, quand il s'agit d'un mixage. Par exemple, dans le quartier, il y avait les élites et les anciens, les Italiens, enfin, cosmopolites. C'est un quartier qui reste cosmopolite. Il y a les Italiens, les Français qui ont habité la ville avant 1952. Et leurs enfants, ils sont toujours, enfin, ils sont là. Donc maintenant, il y a des pratiques qui se mêlent. Il y a les églises, les mosquées, les cloches, l'appel à la prière. Donc il y a un métissage qui tout est mixé. Et on ne peut plus voir les racines. On ne peut pas dire maintenant que cette personne est là, par exemple, maman française ou maman italienne. On ne peut plus. C'est vraiment mixé. C'est tout à fait mélangé. Après l'émergence, c'est quand quelque chose il apparaît. Donc par exemple, quand il y avait des petits palais, il n'y avait pas les crières de rue. Mais quand ils ont changé les configurations spatiales, les crières de le quartier devient populaire, les crières de rue apparaissent. Les marchés, un type de marche. Donc, en fait, les gens, quand ils marchent, ils font un son... typique, c'est comme si il retirait les pieds comme ça. Donc en fait, il y a des pratiques qui se présentent, les cafés par exemple. Donc le café, il y a tout un monde autour du, tout un travail autour du café avec les jeux sociaux. Oui, avec exactement. Donc un son typique, un odeur avec le narguilé, les regards. Il y a quand même le regard qui contrôle ce qui rentre. C'est normal, dans ce quartier, il n'y a pas de gardiens, on n'a pas besoin. Et puis, en fait, dans les pratiques, les femmes qui se parlent depuis la fenêtre, il y a quelqu'un dans l'enregistrement, une femme qui est dans la rue et puis une autre qui veut acheter je ne sais pas quoi, donc il y a toute une discussion qui prend place au sein de l'espace. Et c'est accepté. Donc les gens ne sont pas gênés de ça, c'est accepté. Donc ça, c'est l'émergence. Et puis... quatrième groupe, l'anischronie, ça c'est quand il s'agit d'un changement dans la vitesse de l'évolution. Par exemple, une augmentation très importante ou bien une diminution très importante. Par exemple, après la révolution de 2011, on a perdu le contrôle sur l'espace public. Il y a beaucoup de crières des vendeurs ambulants qui sont pas l'autorisation. Et ça envahit vraiment l'espace public. Partout. Donc il y a une discussion, un monde sonore, une présence corporelle, un type de marche qui est complètement différente. Et puis, cinquième groupe, c'est l'hypertextualité, ça relie à l'internationalisation des quartiers. Donc on ne sait plus on est où. Enfin, on peut, par exemple, dans la façon dont on expérimente les gated communities, ça c'est une pièce de l'Europe. Ça m'a fait penser à mon expérience dans le quartier où j'habitais en Amérique. Donc ça, c'est vraiment on n'est plus dans le contexte, on est décontextualisé, et puis ça fait appel à une expérience normalisée partout. C'est les mêmes phénomènes, c'est les enfants qui sont très importants, qui ont une place très importante au sein de l'expérience quotidienne. Et puis il y a les jours d'enfants qui font une telle pratique, les restaurants. Enfin, donc il n'y a pas cette particularité du contexte. Donc en fait, après pour les conclusions, en fait c'est tout un travail sur le temps. Et comment intégrer ces dimensions temporelles et ces phénomènes héritage d'ambiance qui viennent vraiment du passé. Comment l'intégrer dans une vision prospective de l'aménagement? Comment, par exemple, les crières de la rue, si ça fait vraiment partie de l'expérience et l'attachement ou la relation interpersonnelle, l'interaction au sein de l'espace public, comment peut-on préserver une telle phénomène? Et en fait, pour faire émerger un phénomène, c'est pas qu'un phénomène social, mais c'est un phénomène, c'est comme l'ambiance en fait. C'est spatial, social, sensible. Donc pour faire émerger la voix des crières de la rue, on a besoin d'un espace intime, étroit, à une échelle corporelle moyenne. Donc si il y a des tours, et puis il y a tout un mode de fonction, en fait il y a les paliers que les gens descendent pour pouvoir prendre, enfin c'est pas qu'on descend et qu'on monte, non, il y a toute une pratique sociale qui fait continuer ce phénomène. Donc quand on va changer, quand on va faire une transformation de ce quartier en hauteur, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc on a deux autres, il y aura après un changement. Ils vont utiliser soit des micros pour forcer leur voix à exister, ou bien ils vont être complètement effacés. Donc comment prendre les conditions d'émergence des phénomènes d'ambiance en considération en pensant l'avenir des quartiers. Donc en fait, tout ça, c'était les questions clés pour penser la mémoire sensible et comment l'ambiance se présente dans chaque quartier. Donc en fait, il y a une gestion du temps quand même très importante. Il y a une puissance du temps. Puissance du temps, parce qu'en fait il y a des phénomènes qui se reproduisent, donc il y a une culture comme par exemple qui se reproduit dans le sens comment on peut dire ça, un type de marche par exemple, ou bien posture comme les femmes qui portent. Donc ça c'est, enfin il n'y a plus cette relation à nous. Les femmes portent plus les dolos pour arriver chez eux, mais cette posture corporelle ça existe. Donc les femmes portent sur leur tête le produit pour aller chez eux. Donc en fait il y a une reproduction des phénomènes, mais peut-être pas dans le même contexte. Après en fait, comment dans l'opérationnalité du couplage ambiance-palimpseste, on peut l'intégrer dans les pratiques des projets urbains. Donc, il y a cette vision bottom-up, vraiment des gestes habitants, leur mémoire, leur attachement, pour monter et aussi du quotidien, de l'intime, de micro-événements, comment on peut monter une stratégie urbaine d'aménagement général. Et puis la question de la mémoire, effectivement, il y a plusieurs types de mémoire qui prennent place au sein de, enfin, au sein de notre expérience de cette thèse. La mémoire verbalisée, donc les gens parlent de leur mémoire. Il y a la mémoire involontaire, En fait, quand, par exemple, Marcel Proust, quand il a parlé, enfin, par exemple, on sent l'odeur de quelque chose, le pain. Puis ça nous fait penser à beaucoup d'autres choses dans notre propre vie ou dans d'autres quartiers, ou bien dans le quartier lui-même. Ça identifie notre expérience du quartier. La mémoire hypertextuelle, qu'on n'est plus contextualisé, et puis la mémoire incorporée, c'est embodiment, c'est comment le corps lui-même il incarne certaines mémoires. Et par exemple, en fait, le Choubra, c'est un quartier qui était d'origine villageoise. Il y a jusqu'à maintenant les femmes qui portent les robes galbia, c'est les robes longues, en noir, posture complètement villageoise, qui viennent vraiment de village, qui s'installent au quartier pour vendre leur quartier, puisque ça c'est le quartier le plus proche des terrains agricoles. Donc il y a des pratiques qui montrent cet aspect villageois de ce quartier. Donc il y a une mémoire incorporée dans le corps urbain ou le corps habitant. En fait, après, je vais terminer par plus par ça, la représentation de l'ambiance dans le temps. Et en fait, dans les coupes temporelles, je vais quand même un peu parler des coupes temporelles. Les coupes temporelles, en fait, on est vers une stratigraphie de l'expérience. On est toujours, en fait, jusqu'à maintenant, on est dans la cartographie, on est toujours dans le 2D dimension. Mais en fait, en ajoutant la dimension temporelle, il y a quand même une sorte de stratification, strate temporelle de l'expérience qui se présente. Et en fait, dans ces strates-là, il montre, donc, comme j'ai dit, en fait, on a des couches, des tranches du temps qui montrent comment l'ambiance se présente au sein de chaque tranche du temps, et puis l'évolution verticale dans lequel un phénomène évolue. Et en fait, c'est une réorganisation temporelle qui permet la construction des liens entre le passé, le présent et le futur des phénomènes sensibles, qui permet de parcourir l'histoire. Le temps, qui est traditionnellement pensé de manière linéaire, est décomposé en strates, couches, superpositions, les uns après les autres. En tant que schéma spatial, la coupe temporelle décrit une séquentialité spatiale autant que temporelle. Elle ne représente qu'un échantillon du palimpseste du territoire qui prend la figure d'un pli sédimentaire divisé par le nombre des couches. Et en fait, c'est une échelle diachronique du temps qui voulait présenter un temps continu. Mais parfois, elle est discontinuée, elle est très discontinue et très fragmentée. Et en fait, à partir des traces des phénomènes dans le temps, on peut établir une relation temporelle et comprendre son comportement dans le temps. Les traces et les vestiges du passé sont considérés comme des jalons temporels dans l'histoire de la ville. Et c'est à travers ces traces que nous construisons une connaissance sur la mémoire sensible. Ces vestiges sont de bons indicateurs du temps, des outils pour la stratigraphie. Et en fait, les coupes temporelles possèdent un caractère dynamique et évolutif. On peut effectivement vraiment changer on peut ajouter des couches, et on peut changer, s'il y a quelque, donc en fait on peut le row qui est configuré pour ajouter toujours, accueillir des autres informations. Et puis en fait, pour les architectes, il y a quand même très important cette notion de regard flâneur. À la fois, donc quand on voit l'ensemble, le regard pour flâner dans, à la fois dans l'espace d'une façon horizontale et dans le temps d'une façon verticale. Donc on peut faire un voyage sensotemporel dans l'espace et dans le temps. Et puis, en fait, cette coupe temporelle, ça nous permet d'intégrer, et ça c'est quand même pas très connu dans les pratiques des architectes, comment les types de représentation de la ville, tels que les films et les romans, peuvent faire partie, peuvent servir un corpus de base pour les architectes, pour comprendre les quartiers dans lesquels ils vont faire une intervention. Donc ça, c'est quand même complètement ignoré dans la pensée contemporaine de l'architecture. Et ça, c'est très important pour avoir une approche prospective. Donc c'est vrai que c'est un regard rétrospectif, mais pour donner une base pour la prospectivité de la vie. Donc, je m'arrête ici. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette idée de composition de temporelle. Peut-être que je vais juste ajouter d'où vient cette idée. En fait, je dis vite fait, mais en fait l'idée principale, elle m'est arrivée en fait initiée par rapport à ce groupe de travail qui ont travaillé sur le transect pour améliorer la capacité des couples à présenter l'ambiance. Puis j'ai en fait, en lisant un livre sur la géologie et comment en fait l'empilement, ils font des empilements dans le terrain et puis voir comment les différentes couches pour découvrir à partir des traces, pour raconter une histoire géologique du terrain. En fait, cette idée commençait petit à petit se construire en fait, et puis pour arriver à ce chemin pour montrer l'histoire et la mémoire de l'ambiance du quartier. Merci.
Merci beaucoup.